Journal des sciences.
Et on commence ce journal avec la création d'un prototype de cœur humain en impression 3D à partir de tissus d'origine humaine.
Ce prototype est aussi gros qu'un cœur de lapin, mais pour la bioimpression, c'est une avancée majeure. La bioimpression, c'est comme une imprimante 3D classique, sauf qu'au lieu de mettre des cartouches d'encre, ce sont des tissus cellulaires. Cela permet de reconstituer un tissu, du moins un micro-tissu. Les enjeux sont importants car il y a une pénurie de donneurs pour les greffes cardiaques. Ici, pour la première fois, cette équipe israélienne a réussi à imprimer et à reconstituer l'anatomie d'un cœur dans sa totalité, avec ses cellules et ses vaisseaux sanguins. Et surtout, il a été conçu à partir de différents types de cellules d'un patient. Et ça aussi, c'est une première. Alors pour que ce cœur soit fonctionnel, il faut encore une dizaine d'années de travail, notamment pour agrandir sa taille. Donc on est encore loin d'une époque où les hôpitaux bio-imprimeront les organes de leurs patients. Jean-Charles Duclos-Vallée est hépatologue et président de l'Institut de biofabrication CellSpace. Il trouve cette étude très encourageante.
Le problème, c'est de reconstituer une anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire de reconstituer un dialogue entre les cellules et la matrice. C'est un très beau travail qui permet de travailler et d'étudier la complémentarité entre les cellules et la matrice. Après un bioimpression est quelque chose de fonctionnel. Et ces cellules différenciées, ces cardiomyocytes, donc cellules différenciées cardiaques, à partir de cellules de patients, de cellules indifférenciées qu'on a reprogrammées, et idem pour la matrice. Donc je trouve que c'est une avancée très importante avec la démonstration d'une fonctionnalité. Là, la particularité, c'est que on reproduit quand même une architecture 3D très intéressante cardiaque, une vascularisation cardiaque, et que il y a à partir de même patient la production de cellules différenciées et de matrices. Donc ça, c'est très intéressant parce que en plus, c'est du même patient. Donc effectivement, vous vous affranchissez de tout problème d'incompatibilité. Donc vous vous affranchissez effectivement d'une immunodépression après, etc., etc., de problématiques de rejet, bien sûr. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, et dans toutes ces problématiques de bioconstruction, a fortiori après bioimpression, c'est le long terme. Est-ce qu'il y a une viabilité, une dégradation à long terme? Est-ce qu'il y a un maintien de la différenciation à long terme?
Deuxième sujet de ce journal des sciences, une équipe américaine a réussi à obtenir une activité cérébrale dans le cerveau de porcs morts, et ce 4 heures après leur décès, Natacha.
Les résultats sont publiés dans la revue Nature. C'est un travail qui a commencé il y a 8 ans, et c'est un bel exemple de recherche transdisciplinaire avec un consortium de vétérinaires, de bioinformaticiens, de neurologues, de biologistes. Et cette équipe a récupéré les têtes d'une trentaine de jeunes cochons morts. Après 4 heures de transport, les cerveaux étaient branchés à une pompe et alimentés par du sang artificiel pendant 6 heures, avec une solution spéciale inventée par les chercheurs. Alors, grande surprise, une activité cellulaire est réapparue, y compris une partie de l'activité neuronale dans l'hippocampe. Alors, pas de signe de reprise de capacité intellectuelle ou de conscience, mais seulement quelques fonctions cellulaires qui se sont remises en route, et c'est déjà un résultat très surprenant. Cela contredit le dogme selon lequel, après avoir manqué d'oxygène, les dommages causés au cerveau sont irréversibles. Alors peut-être avons-nous sous-estimé ces capacités de restauration cellulaire. Pierre-Marie Liedo est directeur du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur.
Ils ont montré également que les cellules du système immunitaire, qu'on appelle la microglie, réagissaient. En l'occurrence, ils ont utilisé le LPS, qui est d'ailleurs une solution chimique qui mime l'invasion de bactéries, dans ce qu'on appelle le sepsis dans le corps, et ont montré que ce cerveau réagissait à cette invasion bactérienne. Le système circulatoire s'est également remis en route. Pour les chercheurs, on ne parle pas d'un cerveau qui s'est réveillé. Là, on a des micro-territoires qui se sont mis en activité.
Ce qui m'a aussi très étonné dans cette étude, c'était justement la restauration d'une activité synaptique. Ça, c'est quand même une première,
oui.
Non ?
Oui, parce que là, rappelons que la définition profane ou juridique ou médicale du vivant actuellement, elle est basée sur l'activité électrique du cerveau. Cette distinction entre électroencéphalogramme plat ou actif, eh bien, dépend de l'activité électrique des fameux contacts qui relient deux neurones, ce qu'on appelle la synapse. Donc on a quand même ici un grand espoir, non pas de ressusciter globalement un cerveau, mais au moins de mettre tout en œuvre pour que, suite à un AVC, suite à un traumatisme crânien, eh bien, qu'un processus peut-être de destruction peut être réversé. Et ça, c'est un grand espoir pour les avenirs à venir en matière de stratégie thérapeutique.
En bref, l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte autour de l'épidémie de rougeole qui s'intensifie dans le monde.
En 2019, 170 pays ont signalé plus de 112 000 cas de rougeole. C'est 4 fois plus que l'an dernier à la même période. Alors ce qui explique ces chiffres, c'est pour les pays riches, ce sont les anti-vaccins. Et pour les pays en développement, c'est le mauvais accès aux soins. Alors cela concerne l'Afrique, le territoire le plus touché, mais aussi l'Europe et les États-Unis. À Madagascar, depuis septembre, la rougeole a déjà tué plus de 1200 personnes, le plus souvent des enfants.
Troisième sujet de ce journal, l'invention d'un nouveau procédé pour générer de l'électricité à partir de flocons de neige.
Alors, créer de l'énergie à partir de flocons de neige, ça peut paraître d'abord contre-intuitif, et bien au contraire. La California Nanosystem Institute vient de créer le Snowtang. L'appareil est capable de récupérer l'énergie électrostatique de la neige. Le procédé, c'est celui de l'utilisation de la triboélectricité. La triboélectricité, c'est l'électricité statique qui se crée lorsque des corps se frottent. Alors utiliser ce phénomène pour récupérer l'énergie, ce n'est pas nouveau, mais avec de la neige, ça c'est novateur. Alors l'étude rappelle que 30% de la planète est recouverte de neige. Ça laisse penser que toute cette superficie va permettre de produire des quantités énormes d'énergie. Mais il ne faut pas se tromper, on n'a pas encore mis la main sur une nouvelle ressource énergétique. Bernard Multon est professeur de génie électrique à l'École normale supérieure de Rennes. Pour lui, l'application de ce procédé reste limitée, mais c'est une preuve de concept.
Les flocons de neige sont des particules chargées d'électricité qui ne demandent qu'à transférer leur charge électrique vers autre chose. Donc si vous mettez en face de ces particules chargées un récepteur qui est prêt à échanger des électrons ou des ions, eh bien vous pouvez avoir du courant électrique. Et donc c'est un peu l'idée de la triboélectricité. Le silicone, parmi d'autres matériaux, permet d'avoir justement des charges de surface favorables à ce transfert d'énergie.
La neige qui est chargée positivement, libère ses électrons au contact du silicone.
Voilà, alors ce sont des densités de puissance extrêmement faibles. Hein. On parle d'un maximum de 0,2 milliwatts par mètre carré. Si vous voulez, même par faible éclairement en énergie solaire, à très très faible éclairement, vous avez 1000 fois plus d'énergie récupérable par des procédés photovoltaïques, quoi, dont le rendement n'est pas très élevé. Donc, si vous voulez, les ordres de grandeur sont extrêmement faibles pour faire de la récupération d'énergie. C'est pas pour ça que le procédé n'a aucun intérêt, mais en tout cas, il a aucun intérêt d'un point de vue soutenabilité, développement durable ou production d'énergie ou contribution énergétique.
Les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté 2 nouvelles ondes gravitationnelles.
Depuis le 1er avril, les 3 détecteurs sont synchronisés, ce qui leur permet une meilleure triangulation pour détecter les signaux. La première détection date du 8 avril, la seconde du 12. Elles correspondent chacune à la coalescence de 2 trous noirs. Ces détections vont permettre de mieux comprendre comment les trous noirs se forment.
Et pour finir ce journal, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, une étude parue dans Frontiers in Ecology and Evolution montre que chez certaines espèces, manger ses petits, c'est une forme de protection parentale, voire d'affection presque.
Oui, il y a un très grand nombre, ça c'est très répandu dans la nature, un très grand nombre d'animaux qui mangent leur progéniture, les lapins, les ours, les souris, les poules. Et selon ce papier, ce n'est pas une bizarrerie de l'évolution. Alors, pourquoi manger ses bébés? L'hypothèse. Et si le cannibalisme filial permettait d'augmenter la survie de la portée? Et si manger ses rejetons permettait de mieux nourrir et protéger ceux qui restent? Ces chercheurs américains ont donc créé un modèle mathématique pour tester cette hypothèse. Et en effet, le surpeuplement menace la survie de la portée. En réduire la densité, c'est aussi réduire son taux de mortalité. Parents, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
surtout pas, n'appliquez pas ça chez vous. Éloignez vos enfants du poste. Et puis non, pour conclure ce journal, un petit mot tout de même. Un petit tour dans l'espace vers un petit bout de rocher qui circule entre Mars et Jupiter dans la ceinture d'astéroïdes. Il s'appelait 31-387-1988-YA2. Eh bien, il s'appelle désormais Le Hook, du nom de notre camarade astrophysicien au CEA, Roland Le Hook. Voilà, l'Union Astronomique Internationale vient de valider cette proposition de l'astronome Alain Maury. Il y a donc maintenant un Le Hook qui est en orbite quelque part au fond de l'espace, c'est pas merveilleux.